Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous ouvrions notre Bible et nous allons faire une courte lecture sur un sujet qui est très intéressant dans ce sens que, comme nous l'avons chanté à différentes reprises à travers ces petits cantiques, ces petits chants, où il est question d'un Christ qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, eh bien, il entend nos prières. Et puisque nous avons la foi en lui, eh bien, il exauce. Tout ça parce que nous avons la foi en lui. C'est important. Alors, un texte qui est, c'est vrai, assez connu, mais on va le lire ensemble, et puis il va nous conduire dans d'autres réflexions, enfin, il va nourrir la réflexion plutôt. Alors, je vous propose, dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 13, et au verset 10, nous allons commencer par cette rencontre d'une femme malheureuse, d'une femme qui est souffrante, infirme, malade, et qui va faire une expérience extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle va voir sa guérison s'opérer. Et tout cela en réponse à sa foi et sur une parole tout simplement de Jésus. Alors, je rappelle Luc chapitre 13 verset 10. Comme à son habitude, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », lui imposa les mains, et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Nous allons maintenant lire le verset 16, et c'est un éclaircissement que Jésus nous donne. Il dira devant tous les participants, enfin les gens qui étaient présents dans la synagogue, à ce moment-là, qui ont vu, hein, de leurs yeux, eh bien, la guérison s'opérait sur cette malheureuse. Et Jésus va préciser cette chose, il dira, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Alors, c'est un récit qui nous est rapporté uniquement par l'évangéliste Luc, mais il est important que nous puissions le resituer peut-être à travers d'autres passages dans la Bible où il est question finalement de la puissance miraculeuse de Jésus, puissance miraculeuse de Dieu. Alors on le voit dans l'Ancien Testament à travers le ministère de certains grands hommes de foi, les prophètes par exemple. Mais alors nous avons vraiment le déploiement, et on pourrait peut-être parler de plénitude de cette puissance manifestée, de cette puissance céleste, de cette puissance divine manifestée à travers le ministère de Jésus. Et lorsque nous tournons les pages des évangiles, hein, il y en a quatre, vous le savez, eh bien on voit tantôt ici, tantôt là, Jésus, eh bien, libérant, délivrant, guérissant, soulageant, apportant, eh bien là, en même temps des enseignements pour chacun d'entre nous sur la nature même de la foi. La foi, ne pas confondre avec une croyance religieuse, mais la foi spirituelle. La foi qui croit en la parole. La foi qui saisit, eh bien, tout simplement, eh bien, ce que Dieu nous dit. Et qui fait que, bien, ce que Dieu dit, bien, il l'accomplit. Il l'accomplit non pas parce que nous avons quelques mérites particuliers pour recevoir, hein, mais tout simplement parce que nous lui faisons confiance. Et nous avons nombre de cas qui sont exposés devant nous où les gens viennent vers Jésus dans des situations désespérées, hein. On se souvient de, par exemple, de Jaïrus, et puis bien d'autres, hein, la femme cananéenne, par exemple. Des cas désespérés, des situations où il n'y a plus rien à faire humainement parlant. Et voilà que, dans ce texte que nous avons devant les yeux et que nous allons méditer et recouper avec d'autres passages, la première chose que nous voyons, c'est que Jésus enseigne. Et vous comprenez que, et vous l'avez saisi, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et là, vous avez la démonstration qui fait que, à l'écoute, comme vous le faites ce soir, nous sommes réunis les uns, quelques-uns entre nous, Et nous avons, eh bien, comme objectif principal de vous faire entendre la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul avait raison lorsqu'il dit dans Romains chapitre 17, au verset 10, quand il dit « Mais la foi vient de ce que l'on entend, la foi ne vient pas de ce que l'on voit. Ce n'est pas le miracle qui va créer la foi, mais la foi va créer le miracle. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une impression, ce n'est pas un sentiment quelconque qui va nous donner la foi, ou une émotion par exemple, qu'elle soit religieuse ou autre. Mais c'est ce que l'on entend. C'est ce que l'on entend, et ce soir, ce que vous êtes venu entendre, eh bien moi je ne voudrais pas savoir autre chose que de vous parler de Jésus, de vous parler de ce qu'il a enseigné, et vous avez, ça coule de source, Jésus enseigné un jour dans une synagogue. Et ça c'est important. Alors, le prédicateur a peu d'importance dans tout cela. Ce qui est important, c'est la prédication. C'est pas celui qui parle, en l'occurrence moi-même, parce que je suis de service, mais tout simplement, eh bien, cette parole que nous prenons, et je ne voudrais pas y déroger, et si j'ai un commentaire à faire sur ce texte, ça sera ce texte, et ce que nous dit la parole de Dieu, et non pas peut-être mes idées, mes théologies à moi, ou ma philosophie, peut-être de la vie ou de Dieu, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Jésus enseignait un jour dans la synagogue, et c'était un jour de sabbat, bon. C'était le jour normalement où il y avait le plus de monde dans les synagogues, puisque c'était le jour où on célébrait, pour les juifs c'est le samedi naturellement, hein. C'est demain. Hein. Pour nous c'est après-demain, je vous le rappelle. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, une chose qui est certaine, c'est qu'il y avait un jour préposé pour les juifs, ô combien important pour les juifs le jour du sabbat. Alors on se réunissait soit dans le temple à Jérusalem, beaucoup de monde hein, fréquenté, et puis dans les synagogues des tous les villages ou toutes les villes. Et puis il nous est dit qu'il y a eu en présence Jésus, naturellement, l'assistance, et qu'il y avait une femme, et cette femme, avec un mot qui est assez particulier, qui peut être choquant dans notre 21e siècle, possédée, vous rendez compte? Une femme qui, eh bien, n'était pas maîtresse d'elle-même, on pourrait dire. Il y avait une force, il y avait quelque chose qui dominait sa vie. Alors elle pouvait faire, et je pense qu'elle n'était certainement pas sans rester, à trouver une solution à son problème d'infirmité. Elle avait peut-être dû se tourner vers les uns, vers les autres, peut-être la médecine de l'époque, qui était encore différente de la nôtre, hein, certainement antique. Mais toujours est-il que, quoi qu'elle fasse, les dépenses qu'elle pouvait faire, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui avait dépensé tout son argent, sans avoir finalement obtenu un soulagement ou un résultat. On connaît ça, c'est aussi un texte qui nous est donné dans l'Évangile. Mais cette femme était possédée, et le mot est tout à fait approprié parce que ça veut dire que c'était pas elle qui était maîtresse de sa vie, je viens de le dire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, et comme s'il y avait réellement quelque chose, parce que c'était réel, qui dominait sa vie, et particulièrement son corps. Une possession corporelle, parce qu'il nous est donné, il nous est dit, un esprit. Alors on en est loin aujourd'hui de ce temps où on veut se faire peur, hein. Ah si, on se fait peur à Halloween, hein, vous savez, là, comprenez, hein, c'est... Mais bon, tout ça, ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est même une connotation, voire magique et occulte, mais on laisse ça de côté, c'est pas notre propos. Mais toujours est-il que la Bible nous dit, elle emploie les bons mots, moi, me semble-t-il. S'il y avait eu d'autres mots, il y aurait peut-être autre chose, mais toujours est-il que c'est tout à fait approprié, la femme était possédée d'un esprit, donc quelque chose d'invisible. Quelque chose qui est contraire à notre nature, quelque chose qui est étranger à notre nature, non notre perception, c'est notre monde matériel. On sait nous identifier les uns et les autres avec notre nom, notre prénom, notre visage, etc. On se trompe pas, hein. On sait à qui on s'adresse. Le monde, dans notre environnement, nous avons appris à le connaître, à le découvrir naturellement depuis que nous sommes sur cette terre. Mais le monde de l'esprit, le monde invisible... Le monde qui est inqualifiable, impalpable, qui nous échappe, parce que nous ne sommes pas dans cette dimension-là, mais il existe. D'ailleurs, la Bible est très claire, c'est peut-être un peu manichéen ce que je vais vous dire, mais il existe quand même hein, le bien, le mal, la vérité et l'erreur, la lumière, les ténèbres, voilà, tout ça, ce sont des réalités, et on ne peut pas les nier. C'est pas parce qu'on ne voit pas le vent qu'on dit « ça n'existe pas le vent ». Allez voir un petit tour du côté de Marseille, vous allez voir si vous avez des longs cheveux, ça souffle, naturellement. Bon, voilà. Alors donc, il y a des choses, il y a des réalités que, bien sûr, il y a des choses que on ne peut pas voir, mais on sent. Et elle, cette femme, avait ce ressenti, elle savait qu'elle était malade, elle était limitée, Elle était, nous pourrions dire, peut-être entravée dans sa vie, dans ses capacités, qui la rendait infirme. Et attendez, c'était pas d'aujourd'hui, 18 ans de la vie d'une personne. C'est terrible, 18 ans, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, aujourd'hui, vous retournez 18 ans en arrière, ça fait combien ça? Ça fait 2000 non, plus que ça, 96. C'est bien ça, je me trompe pas? Non, c'est pas ça? Comment? 97. Bon, je me suis trompé de décennie, alors. Non, peu importe. Mais peu importe. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que 97, vous vous rendez compte? Toutes ces années qui sont passées, que nous avons vécues, quand on est bien portant, ça va. Voilà, il y a eu des bons souvenirs, des moins bons. Mais quand on est dans la situation de cette femme, ça, la vie revêt l'existence, parce que c'est pas, ça ne mérite pas le nom de vie. Mais une existence malheureuse, ça revêt quelque chose de dramatique. 18 ans de maladie, et il nous est même donné la raison, elle était courbée. Voilà. Bon, vous allez me dire courbée, voilà. Mais courbée, vraiment. C'est-à-dire que elle était certainement, et bien, dans une position, comme cela nous est précisé, où elle ne pouvait voir que le sol. Le ciel, fallait qu'elle se couche pour voir le ciel. Et encore, restait toujours avec une inclinaison anormale. Et c'est terrible qu'il y ait tant de gens qui soient courbés, qui ne peuvent voir que la terre, mais qui ne voient jamais le ciel. Alors les courbures, elles sont nombreuses dans la vie. Hein. Alors il y a cette infirmité, même si derrière il y a une puissance maléfique, quelque chose de mauvais, qui fait que cette femme est brisée, elle est coupée, elle est courbée, hein, elle est là dans cet état, et c'est physique. Mais peut-être que nous pouvons nous adresser en même temps, parce que Jésus avait aussi cet horizon beaucoup plus large, et son regard certainement embrassait beaucoup plus d'autres horizons, qui sont peut-être pour nous des horizons peut-être au niveau de notre vie morale, au niveau de notre vie psychologique, et pourquoi pas aussi au niveau de notre vie spirituelle, où là, eh bien, nous vivons dans cette infirmité, en quelque sorte. Et ça nous tient à la peau. Cette femme, ça la tenait. Cette femme, ça l'handicapait. Elle ne pouvait pas vivre comme tout le monde, donc ça pouvait générer des complexes, de dire, mais pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi je ne peux pas travailler? Pourquoi je ne peux pas avoir, finalement, eh bien, ce que les autres ont? Parce que cette infirmité, de quelque nature ça soit sur le plan corporel, eh bien, cette infirmité la rendait incapable, en quelque sorte, ou quasiment incapable. C'est terrible, hein, de souffrir. Et pour ceux qui ont des maladies chroniques, vous savez, hein, vous savez, des choses où il y a un mieux, et puis après, vous avez un long temps d'infirmité, et vous dites, et vous prenez espoir quelquefois, et ça recommence. Alors, ça se décline sous différentes formes, hein, ces maladies chroniques. Ça, c'était chronique. Et elle était ainsi. Elle était ainsi depuis tant d'années, comme ça, près de 20 ans. Alors, sur le plan moral, ça peut être ça. Il y a parfois des choses qui nous atteignent, que peut-être nous avons depuis notre enfance, que nous traînons. Nous sommes toujours à espérer vers la terre parce que nous ne pouvons pas regarder autre chose. Et peut-être nous avons oublié, ou peut-être que nous n'avons jamais su qu'il y a au ciel une possibilité qui peut nous faire redresser et nous donner de vivre avec le nom, avec dans la dignité de ce nom, vivre réellement, débarrasser de certaines choses qui nous encombrent, de certaines choses qui, eh bien là, nous rendent profondément malheureux. Ça ne se voit pas. Là, ça se voyait. L'auteur de cette infirmité ne se voyait pas possédé d'un esprit. Mais la réalité, pour tous les autres hommes, il voyait qu'elle était courbée. Donc ça se voyait. Mais il y a bien des courbures dans notre vie qui ne se voient pas, qui sont impalpables, les autres ne peuvent pas prétendre, ils ne peuvent pas savoir, que nous gardons comme des secrets, parce que peut-être que ça nous fait honte, peut-être que ça nous handicape, ça nous tourmente, peut-être qu'il y a là des forces de tentation qui sont pour nous gâcher la vie, et parfois nous les surmontons victorieusement, et puis parfois nous retombons, et à chaque fois que nous retombons, quelle humiliation. Des courbes, courbées cette femme, que nous gardons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce peut être le souvenir de violence qu'on nous a infligé. Ça peut être des souvenirs d'un désamour, parce que nous n'avons pas été aimés de nos parents, ou peut-être moqués, humiliés par des frères et des sœurs. Enfin, je ne sais pas, moi, il y a tellement de choses. Peut-être que nous n'avons pas réussi dans notre vie, alors on nous a toujours appelé le vilain petit canard. Ça, ce sont des courbures aussi, qu'on n'arrive pas à surmonter. Ce peut être des fautes personnelles, dont aujourd'hui nous n'arrivons pas à finalement nous débarrasser. on ne se pardonne pas soi-même, alors nous sommes courbés. Ce peut être également, eh bien, en effet, des choses où nous n'arrivons pas, parce qu'on nous a fait du mal, que nous n'arrivons pas à pardonner. Ah, la haine, le ressentiment, quelque chose qui est toujours dur à l'intérieur de nous-mêmes, et on n'arrive pas à relever la tête. Parce qu'on ne sait pas qu'au ciel, il y a quelqu'un qui nous a pardonné déjà. Et quand on sait qu'on est pardonné au ciel, bon, on peut pardonner aux autres, c'est beaucoup plus facile. Que de cassures, que de brisures, que de piétinements, que de gens qui marchent la tête baissée, même s'ils ont la tête haute, mais ils sont quand même toujours vers la terre. C'est terrible. Pauvre femme, elle était courbée depuis 18 ans et elle ne pouvait aucunement se redresser, ce qui signifie que quelque part, malgré ses efforts, ça passait pas. Ça vous est arrivé peut-être d'avoir des problèmes de colonne vertébrale? Ça fait mal. La sciatique. À travers, quelquefois, des accidents. Et ça, on peut toujours faire des efforts. J'ai quelques souvenirs en la matière. Pendant des mois et des mois, où ne pas pouvoir tourner la tête. Vous m'auriez vu, vous m'auriez dit, mais quelque chose qui va pas là. Ah oui, ah, c'est difficile. Hein. Vous tournez d'un côté, vous tournez de l'autre. Voilà, la nuit, c'est encore pire que le jour, parce que c'est du 24-24, hein, naturellement. Et c'est terrible, c'est difficile. Alors, je suppose qu'il y en a certains qui sont passés par là. Et vous essayez de faire des efforts. Ben, vous pouvez toujours les faire, les efforts. C'est toujours la réponse, c'est que ça vous fait encore davantage souffrir. C'est terrible. Alors, pauvre femme, je l'ai dit, je le répète, elle ne pouvait aucunement se redresser. Qu'elle regarde à droite, qu'elle regarde à gauche, aucun espoir, pas de solution. Et voilà qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il nous est dit que dans cette synagogue, Jésus est venu. Et lorsqu'il a vu cette femme, il y avait beaucoup de monde, comme un jour de sabbat, il pouvait y en avoir dans les synagogues d'Israël. Mais quand il a vu cette femme, il l'a vu elle, il a bien vu tout le monde, mais il l'a vu elle en particulier. Dans sa souffrance, dans son infirmité, dans ce qui la tenait dans cette misère dans laquelle elle était. Alors à ce moment-là, c'est extraordinaire parce que ça nous dit aussi quelque chose. C'est qu'on peut être ignoré, on peut être méconnu de tout le monde autour de nous, même si vous avez une foule autour de vous, de nous, mais il y en a un qui nous voit dans notre souffrance et dans notre misère. Et celui qui nous voit, c'est Jésus, et ne doutez jamais qu'il nous voit dans nos souffrances, et qu'il nous voit dans nos peines et dans tous nos désarrois. Il l'a vu, et ça c'est réconfortant. Il l'a vu, et il lui adresse la parole. Donc elle va entendre. Et ce qu'elle va entendre va lui donner la foi. C'est ça. La communication. Il lui adressa la parole et lui dit, « Mes femmes, tu es délivrée de ton infirmité. » À quelqu'un qui est malade depuis 18 ans, quelqu'un, un inconnu, qui vient vous dire, « Bah ça y est, t'es guéri. Hein. » Quelle réaction vous pouvez avoir? Mais de quoi il s'occupe, celui-là? Non, pas comme ça que ça se passe. Hein. Cette femme, parce qu'elle avait déjà préalablement entendu l'enseignement de Jésus, son cœur a été préparé. C'est pourquoi dans les réunions d'évangélisation classiques comme les nôtres, il y a toujours avant la prière aux malades, que nous allons faire tout à l'heure, il y a toujours au moins un message de communication de la parole de Jésus qui prépare vos cœurs. Et nous avons vu des choses extraordinaires, des gens qui viennent avec vraiment beaucoup de souffrance, qui pénètrent et qui viennent dans cette salle avec beaucoup de souffrance, et en entendant la parole, c'est comme s'il y avait comme une métamorphose qui se faisait, quelque chose qui sont venus avec un visage fermé, douloureux. Et à un moment donné, moi je le vois, hein, et à un moment donné, il y a comme un sourire qui apparaît. Vous savez, c'est tout à fait la réplique de ce psaume, quand il nous est dit, mais quand on tourne les regards vers lui, pas vers moi, hein, mais vers lui, eh bien, le visage est rayonnant de joie. Et ça, ce sont les prémices de la foi qui guérit, la foi qui opère finalement le miracle et qui fait que il y a quelque chose qui change. Et cette femme avait été préparée. Elle avait entendu Jésus, et quand Jésus est venu, il l'a vu, il s'est adressé à elle, il lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et ça marchait. Il y avait la mèche, il fallait l'allumette. Excusez-moi l'expression, il fallait que ça s'enflamme. Surtout quand Jésus nous dit, « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. » Et moi, je crois que dans beaucoup de cœurs, des hommes, des femmes qui sont autour de nous, il y a comme un lumignon qui fume. Mais il faut qu'il y ait le feu. Et s'il y en a un qui est capable d'allumer le feu du salut, de la grâce de Dieu, de la guérison, de la délivrance, ben c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est Jésus. Il a bien dit qu'il était la lumière, n'est-ce pas? Le feu, c'est la lumière aussi. Alors, elle ne pouvait pas se redresser, Jésus lui adresse la parole, et Jésus a fait un geste, qui reste encore un geste, qui n'est pas un geste magique, un geste du monde occulte, même si les guérisseurs et consorts se sont emparés finalement de l'imposition des mains. Mais l'imposition des mains dans le monde de Jésus, dans le monde spirituel, dans le monde divin, eh bien est synonyme finalement d'un accompagnement, d'une aide pour amener les gens par un geste, parce que c'est pas l'imposition des mains qui guérit. C'est pas le prédicateur qui guérit. Moi, j'ai jamais guéri personne. Mais c'est l'association de la foi entre celui qui vient pour que l'on prie pour lui, en lui imposant les mains, et celui qui va le faire. Et c'est peut-être l'Église qui est en prière également. Et là, il se passe toujours quelque chose. C'est formidable. Alors, il lui imposait les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je voudrais dire simplement sur la petite phrase qui vient après. Et cette femme, dira Jésus, est une fille d'Abraham. Et il va dévoiler ce qu'il y a derrière ce monde de l'étrange, ce monde inconnu, ce monde de la possession, ce monde de la maladie chronique, qui courbe les hommes dans la souffrance et dans la peine, dans le chagrin, dans l'isolement des autres. Alors, il dira, et Jésus dira, mais c'est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Moi, je crois que Dieu voit toujours la nécessité de faire une œuvre de délivrance, de salut, de pardon et tout ce que vous voudrez lorsqu'il y a de la peine et de la souffrance parmi les hommes. Jésus est toujours présent. Maintenant, la question, faut-il y croire? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne croiras, tu ne verras, si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Et on appelle ça l'incrédulité. Je ne peux pas croire. Mais si on peut croire. Si tu veux croire, tu peux croire. Mais il faut engager sa volonté. Et c'est sa volonté, c'est votre volonté, c'est notre volonté en disant « Aujourd'hui, je veux croire et c'est à ce moment-là que la foi va jaillir. » Mais nous avons notre part. La part de Dieu, c'est de nous guérir, de faire l'impossible, comme pour cette femme. Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible, mais il nous demande de mettre en action notre volonté. « Veux-tu être guéri » dira-t-il à l'impotent de la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez, hein? Il a répondu que véritablement, il y avait un sursaut. Parce que quelquefois, après 18 ans ou 38 ans de maladie pour l'impotent dont je vous parle il y a un instant, il peut y avoir à un moment un tassement. Il peut y avoir une accoutumance à la maladie, à notre état. Il peut y avoir comme une somnolence, une anesthésie de notre conscience et de notre volonté de dire « ça fait si longtemps, ça n'arrivera jamais ». Eh oui. Et c'est ce que Jésus a dit. Après avoir guéri, il a dit, mais regardez, voilà. Parce que il y a une chose qui est certaine, et moi je voudrais quand même le souligner rapidement, dans l'épître de Paul aux Romains, écoutez simplement, hein, il est dit ce petit texte. Le Dieu de paix, Jésus est venu vers cette femme dans la paix. Il est venu pour lui apporter la paix dans son corps, la paix dans son âme, la paix dans son esprit. Et le Dieu de paix, écrira Paul dans Romains, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ouais. Vous savez que nous avons la victoire dès maintenant. Ouais. La victoire, elle est pour nous. La victoire, elle nous est acquise. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je le répète, ça fait déjà deux fois que je le dis, mais c'est vrai. C'est une question de foi. Et la foi, c'est pas une croyance. Faut pas confondre. C'est pas une croyance superstitieuse. Ce n'est pas une croyance religieuse. La foi, elle est spirituelle, elle vient de l'esprit. Et Dieu est esprit. Et l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit qui passe parmi les hommes. Je voudrais vous donner un autre cas, que nous allons lire maintenant, un cas de servitude, où les gens sont profondément malheureux et peuvent rester malheureux et sont dans la capacité quelquefois de saisir la délivrance de Dieu. On va lire ce passage dans Exode, chapitre 6. J'aimerais bien qu'on puisse voir un petit peu ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël vient d'être il est dans la servitude en Égypte. Un peuple qui souffre parce que ça fait près de 430 ans que les générations et les générations d'Hébreux ont été dans la servitude en Égypte. Alors imaginez-vous, ça représente quand même quelques beaucoup de monde d'abord, et puis beaucoup de temps. On a parlé de 18 ans, là c'est quand même... Et au moment où Dieu va envoyer Moïse pour donner de l'espérance au peuple, pour sortir de sa misère dans le pays d'Égypte, eh bien il va y avoir une réaction assez particulière, c'est que le temps quelquefois, eh bien fait parce que nous souffrons depuis longtemps, parce que nous traînons depuis longtemps dans la souffrance, c'est que finalement, eh bien, lorsque nous sommes prêts ou proches de la délivrance, nous n'y croyons plus. Cette femme, après 18 ans, y croyait encore. Hein. Une parole de Jésus a rallumé, ravivé son cœur, et elle a cru. Et quand Jésus lui dit « mais t'es délivrée », elle a cru de tout son cœur qu'elle était délivrée à ce moment-là. Eh bien, elle a pu se lever, elle a pu se redresser. Écoutez, on va le lire. Dieu parla à Moïse, Exode 6, verset 2, Dieu parla à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel ». Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas encore été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Oui, parce que Dieu entend lorsque nous gémissons. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi... « Dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Je vous donnerai en possession, je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Un rappel de Dieu pour dire, mais je suis avec vous. Malgré la servitude, malgré le malheur, malgré votre long esclavage, j'ai gardé le silence, je me suis tu, mais je suis avec vous. Plus tard, un autre viendra et il dira la même chose, cet autre c'est Jésus. Et la conclusion de son évangile de Matthieu, c'est « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais quand Dieu appelle un homme ou une femme, un jeune homme, une jeune fille, une personne âgée, et quand Dieu et que nous faisons une alliance avec lui, mais Dieu se souviendra toujours de nous. Nous le prions. Il n'oublie pas que nous le prions. Nous crions à lui. Il entend nos cris. Et Dieu va dire au peuple d'Israël, dans sa souffrance et dans sa peine, « Mais j'ai traité une alliance avec vous. Je vous délivrerai de cette servitude. Je vous libérerai de l'Égypte, parce que l'Égypte était quand même synonyme, eh bien, de tout cet esclavage, de toute cette possession, on pourrait dire. C'était pas une personne, c'était un peuple. Domination d'un peuple sur un autre pour le réduire à l'esclavage. Mais écoutez la suite. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, que Dieu lui avait donné cette parole. Mais écoutez bien, l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ah, voilà le problème. Voilà. Parce que soit nous regardons à Dieu et nous mettons toute notre confiance en lui, ayant les regards tournés vers lui et seulement vers lui, ou autrement, si je regarde à mon affaire, si je regarde à ma souffrance, si je regarde aux longues années de mes peines, si je regarde mon histoire, mon passé, si je regarde derrière moi, je ne peux pas avancer. C'est pas possible. Moïse leur dit, regardez devant, Dieu va vous libérer. Il a traité une alliance avec vous. Il va vous bénir. Il va faire de vous son peuple. Et vous serez, vous, ça sera lui pour, vous serez, il sera votre Dieu. Mais le problème, c'est que les cœurs se sont endurcis pendant ce temps-là. Et ils étaient dans l'incapacité de pouvoir faire ce mouvement de foi. Et à un moment donné, il nous est bien précisé, mais l'angoisse et la dure sévite les empêchèrent. Ça fait un peu comme les disciples d'Emmaüs dont les yeux étaient empêchés de voir Jésus alors que Jésus marchait à côté d'eux et leur parlait, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Il y a beaucoup de gens autour de nous, quelle que soit leur servitude, quelle que soit leur courbure, quelle que soit la cassure de leur vie, qui sont empêchés de voir finalement qu'il y a une délivrance pour eux, qu'il y a une possibilité de guérison, de liberté, de libération. Oui, Dieu veut nous guérir de nos anciennes blessures. Il veut nous guérir de notre passé qui nous invalide, qui revient quelquefois au galop comme une vague, qui revient comme un ouragan sur notre vie et nous sommes complètement tout à nouveau submergés. C'est ce qui s'était passé pour les Hébreux. Toutes ces choses les empêchaient, finalement, de regarder à Dieu et d'écouter Moïse. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'écouter Moïse, il s'agit d'écouter Jésus qui nous parle. Parce que Moïse est mort depuis longtemps, mais Jésus est toujours vivant. Et nous avons un Dieu qui est toujours à l'écoute, qui est toujours près de nous. Alors la servitude, c'est quelque chose. L'angoisse et l'oppression, la domination. Il y a une belle parole qui nous est donnée dans le livre du prophète Ésaïe. Je lis, je restitue tout simplement. Ésaïe chapitre 40, il est dit cette parole. Consolez, consolez mon peuple. Ça, c'est l'espérance qui résonnait déjà 800 ans avant la venue de Jésus et de ses miracles et de ce qu'il a accompli pour le monde entier. Et déjà, en écho, cette prédiction, cette prophétie était déjà l'avant-garde qui viendrait des temps de grâce, ceux de l'évangile, ceux que nous vivons aujourd'hui, l'ère du christianisme, mais pas d'un christianisme religieux, d'un christianisme vivant et puissant. Il était dit, mais consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Oui. Et vous savez, à chaque fois que nous nous réunissons dans nos réunions d'évangélisation, c'est pour que les hommes et les femmes qui nous rejoignent puissent avoir déjà un cœur préparé pour la consolation que Dieu va leur donner. Moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que quand nous sommes venus, moi, je suis pas né dans l'évangile, hein. Mais le jour où le Seigneur est venu me chercher, j'étais un jeune homme, il y a eu des semaines et des mois où j'étais préparé avant d'entendre le plein évangile, mais j'étais prêt pour recevoir la consolation dont j'avais besoin à ce moment-là, et parce que Dieu m'a consolé de quelque chose de particulier. Alors à ce moment-là, eh bien, j'ai reçu ce message et j'ai prêté l'oreille, j'ai cru. Et ce que je suis aujourd'hui, je le suis non pas en raison de moi-même, mais en raison de ce que Dieu m'a fait grâce. Et il m'a apporté cette consolation dont j'avais besoin. Et si vous errez peut-être dans une existence qui est difficile, mais Dieu est en train de vous préparer pour vous donner cette consolation. Dieu est un Dieu d'amour. Qui a dit? Oui, beaucoup l'ont dit. Mais qui a dit que Dieu était un Dieu vengeur? Un Dieu qui punit, un Dieu qui détruit, un Dieu qui envoie en enfer. Non, Dieu nous envoie au ciel. Maintenant, si nous ne choisissons pas, peut-être que nous allons prendre une autre route. Hein. La parole est là pour nous montrer le chemin. Hein. Et celui qui nous accompagne, et celui qui nous sert de guide, celui qui sera toujours le guide parfait, c'est Jésus. Hein. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez la route. Et la route de vos cœurs, c'est pas autre chose. Hein. Alors consolez mon peuple. Vous parlez au cœur, donc de Jérusalem, mais au cœur de chacun d'entre nous, que sa servitude est finie. Moi, j'aurais bien aimé être ce jour-là dans la synagogue où s'est passé le miracle de cette femme qui était courbée depuis si longtemps pour voir ce qu'elle était devenue après. Écoutez, si je reprends le texte, il me semble que les choses sont dites. À l'instant, elle se redressa, et qu'est-ce qu'il est dit après? Et elle glorifia Dieu. Qu'est-ce que c'est glorifier? Merci, au revoir et à bientôt. Non, c'est pas ça. Hein. C'est comme le boiteux du temple, il est dit qu'il a fait un tambourinage après dans le temple, parce que le temple c'est feutré, faut pas faire de bruit, etc. Il a dû monter sur les bancs et sur les chaises en disant « Je suis guéri ». Il devait être heureux, hein. C'est ça glorifier Dieu. Il s'est pas trompé. Personne ne se trompe. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir donné une autre vie. Merci de me pardonner. Ah, vous savez, ça fait exploser nos cœurs. Hein. Alors, en ce moment-là, on n'est pas timide. Hein. Moi, je dis que c'est la plus belle chose, moi, quand il y a des gens qui viennent, qui se convertissent, qui se tournent vers le Seigneur. Mais écoutez, je crois que c'est vraiment le miracle de Dieu. C'est une des belles choses qui existe dans la vie. Hein. Ah ouais, c'est formidable. Et on a fait cette expérience, c'était quelque chose. Alors, dites-lui que sa servitude est finie. Et moi, je voudrais vous le dire. Je ne vais pas me prendre pour Ésaïe le prophète, hein, autrement j'aurais une barbe comme ça. Mais toujours est-il que une chose qui est certaine, je voudrais vous dire, mes amis, qui écoutez sa parole, quels que soient vos problèmes, et ils restent peut-être très intimes, vos problèmes, ils restent peut-être secrets, nous n'avons pas besoin de le savoir. Il y en a un qui sait pour nous. Et moi, je ne suis pas un inquisiteur, moi ça ne... Voilà. Mais une chose qui est certaine, c'est que je voudrais vous dire de la part du Seigneur, si vous le voulez, même les choses les plus cachées au fond de votre vie, moi je voudrais vous dire que votre servitude, elle est finie si vous le voulez. le Seigneur peut vous donner vraiment ce que vous avez besoin. Et vous ouvrir la porte que vous cherchez peut-être depuis tellement longtemps. Vous avez frappé à combien de portes? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il dit maintenant, ta servitude est finie. Et ça, ce sont des mots forts. Moi, je le crois. Je le crois que quand Dieu parle ainsi, eh bien, les choses se font de cette manière. Je termine par ce passage que vous connaissez tous. Vous allez dire, mais Alain, il connaît qu'une page dans la Bible. C'est Matthieu 11, verset 28. Ah non, mais ça m'arrive de tourner d'autres pages, hein, quand même, quelquefois. Alors, on va le relire parce que c'est vraiment des textes extraordinaires, ça. C'est formidable. Donc, Matthieu 11, verset 28. Oh, je crois que je pourrais même vous le restituer, vous aussi d'ailleurs, moralement. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, écrasés, courbés, pilonnés, tout ce que vous voudrez. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos de la délivrance, le repos de la consolation, le repos du pardon, le repos de trouver de recouvrer une bonne santé. De recouvrer la paix après les tourments de nos cœurs et de nos âmes et de nos consciences quand il s'agit de choses morales. Le tourment peut-être psychologique que nous avons connu à travers des pensées qui battent la campagne, qui nous tourmentent, qui nous harcèlent. L'obsession, par exemple. J'en ai entendu des choses. Et nous avons aussi vécu des choses par rapport à tous ces tourments de ces esprits qui captivent votre esprit, qui vous dominent, qui vous empêchent de dormir la nuit, qui vous tourmentent. Eh oui, on sait, on connaît, le Seigneur sait faire aussi pour nous délivrer. Je vous donnerai le repos du cœur, le repos de la pensée, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Je vous donnerai du repos, nous dit Jésus. Alors, acceptez ce qui est dit après. Vous prenez, prendre c'est saisir, prendre c'est s'approprier, prendre c'est accaparer peut-être même. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Qu'est-ce que le Seigneur nous laisse à travers l'Évangile? Ce sont que des instructions. Parce que sa parole n'est pas difficile. Ses commandements ne sont pas pénibles si nous voulons. Nous ne sommes plus dans le régime de l'obligation de la loi mosaïque. On en a parlé dimanche. Non. C'est plus tu fais ou alors je te donne un coup sur la tête, hein, tu marches. Non. C'est plus ça. Maintenant, l'obéissance n'est pas une obéissance servile. C'est pas l'obéissance de la peur et de la crainte parce qu'il va m'arriver quelque chose si je ne fais pas. Mais c'est l'obéissance de l'amour. C'est la grâce. Et c'est tellement facile de faire des choses même parfois difficiles lorsque l'on aime. C'est bien deux mondes différents. Alors recevez mes instructions, recevez ma parole, recevez mon évangile, car je suis doux et humble de cœur. La compagnie de Jésus est vraiment agréable, hein, je voudrais vous le dire. Il y en a qui ont peur de Dieu, il y en a qui ont peur de Jésus, mais il n'y a pas à avoir peur. Il nous le dit, doux et humble. Vous voulez vivre avec des gens qui sont doux et humbles? Mais c'est le paradis, enfin ou presque. Moi, je ne pouvais pas vous faire la comparaison, je suis jamais allé. Mais toujours est-il que je sais que la douceur, c'est une vertu. C'est agréable. L'humilité de vivre avec quelqu'un, des gens qui sont humbles, c'est aussi agréable, doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos, ça fait deux fois que Jésus nous le dit. Vous trouverez, vous avez cherché, vous allez trouver. Je vais mettre devant vous le repos pour que vous le saisissiez et que vous vous accapariez pour vous-même, l'appropriez pour vous-même, le repos pour vos âmes, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu nous bénisse ce soir à travers sa parole. Qu'il nous fasse du bien et que chacun d'entre nous, nous ouvrions tout grand notre cœur pour dire, Seigneur, eh bien, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que j'étais courbé. Et maintenant, tu m'as permis de me redresser. Je ne vois pas seulement la terre. Je vois la terre, mais je vois aussi le ciel. Où m'attend le Seigneur? Vous connaissez le petit cantique? Alors, on va simplement prier. On va prier pour que Dieu nous bénisse. On va prier pour que Dieu nous bénisse d'ici quelques instants pour ceux qui vont venir à l'imposition des mains. Et moi, je pense que le Seigneur est capable encore de faire de grandes choses pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, Jésus. C'est vrai que tu appelles à ce rendez-vous magnifique et merveilleux tous ceux qui sont renfermés peut-être même dans une synagogue ou une église et qui sont là, Seigneur, au milieu des autres et qui ne peuvent pas se redresser parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres. La vie les a frappés. La vie les a cassés, la vie les a écrasés, la vie les a chargés. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, moi, il y a une chose qui me réjouit. c'est que s'il y avait beaucoup de monde dans cette synagogue à ce moment-là, toi tu as vu cette femme, tu l'as vue uniquement, tu l'as vue parce que c'était elle, tu as vu ses souffrances, tu as entendu ses cris, tu as certainement entendu aussi ses prières, et tu l'as exaucée. Elle a entendu ta parole, elle a cru, et elle s'est redressée. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant passe dans les rangs. Visite-nous les uns et les autres, et donne-nous la foi qui saisit, qui s'approprie, eh bien, la puissance qui est en Jésus, pour nous redresser, pour nous amener, Seigneur, eh bien là, véritablement, à regarder vers toi et à recevoir. Merci, Seigneur, parce que ton invitation, elle est gracieuse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Répands la paix, Seigneur, ce soir. Répands le repos, Seigneur, dans nos vies. Ça, c'est un bien précieux, et notre vie va changer. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse les uns et les autres, et merci pour votre écoute.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.